Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 2 avril 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Attaque israélienne contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas. Le leader exprime ses condoléances pour la mort en martyr des commandants du CGRI. 4 travailleurs humanitaires étrangers et un traducteur palestinien ont été tués lors d'un raid israélien sur Gaza. La Russie enquête sur l'implication occidentale dans le terrorisme. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le leader de la révolution islamique déclare que l'Iran punira Israël et qu'il le fera regretter le crime commis en Syrie. Dans un message à l'occasion de la mort en martyr du commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique, de son adjoint et de 5 des officiers de ce corps qui l'accompagnaient, dans laquelle a été impliqué le régime d'occupation sioniste, le leader de la révolution islamique a fait remarquer « En faisant appel à Dieu, nous les ferons regretter le crime qu'ils ont commis ». Au nom de Dieu, le commandant dévoué de l'islam, le général de division Mohammad Reza Zaidi, ainsi que son compagnon, le général Mohammad Hadi Haji Rahimi, sont tombés en martyr par des criminels sionistes, usurpateurs et haineux. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux, ainsi que sur les autres martyrs de ce crime, et que sa malédiction soit sur les responsables du régime d'agression sioniste. Nos martyrs ont reçu de leur Dieu miséricordieux la récompense de leur long combat dans la voie de Dieu et jouissent désormais des bénédictions divines en compagnie des saints de Dieu au paradis. Le régime perversionniste sera puni par nos hommes courageux. En faisant appel à Dieu, nous les ferons regretter pour les crimes qu'ils ont commis. La section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, la capitale syrienne, a été la cible d'une attaque de missile menée par le régime sioniste. L'agence de presse officielle syrienne Sana a déclaré que les frappes avaient été menées par l'ennemi israélien et visaient un bâtiment du quartier de Miza à Damas. L'agence syrienne, citant l'un de ses correspondants, a déclaré que l'agression israélienne a causé d'importantes destructions au bâtiment, en plus des dégâts au bâtiment voisin. Le commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie et au Liban, le général de brigade Mohammad Reza Zahedi et son adjoint, le général de brigade Mohammad Hadi Jirahimi, ont été tués en martyr lors de cette attaque israélienne. Le ministérien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, s'est rendu à l'ambassade d'Iran à la suite de l'attaque au missile. Condamnant l'agression israélienne, il a déclaré « L'entité d'occupation israélienne ne pourra jamais porter atteinte aux relations étroites entre l'Iran et la Syrie ». L'ambassadeur d'Iran à Damas, Hossein Akbari, a confirmé les informations faisant état de l'attaque israélienne et a déclaré que le régime sioniste avait attaqué le bâtiment de la section consulaire avec 6 missiles. 7 personnes ont été tuées en martyr lors de cette attaque. Le chef de la diplomatie a condamné la récente frappe israélienne contre la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, affirmant que Tel Aviv devra assumer les conséquences de son acte. Hossein Amir Abdollahian a fait cette déclaration le lundi 1er avril lors d'une conversation téléphonique avec son homologue syrien Faisal Miqdad, qui l'avait appelé pour discuter des différents aspects de la dernière agression israélienne dans ce pays arabe. Amir Abdollahian a condamné l'attaque comme une violation de toutes les obligations et conventions internationales, déclarant que le régime sioniste serait responsable des conséquences de cette action. De même, il a souligné la nécessité d'une réponse sérieuse de la communauté internationale à de telles mesures criminelles. Le plus haut diplomate iranien a également remercié Miqdad pour sa visite à l'ambassade. Le ministérien des Affaires étrangères a pour sa part condamné l'attaque du régime dans les termes les plus fermes et l'a qualifié de violation flagrante des réglementations internationales, notamment de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé à une enquête internationale immédiate sur les crimes de guerre horribles et choquants commis par Israël à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'ampleur des destructions, de la torture et des meurtres et le nombre de Palestiniens détenus dans cet hôpital sont horrifiants et choquants, a déclaré lundi 1er avril Nasser Kanani dans un message sur son compte X. Il a fait ses remarques sur la base des images publiées à l'hôpital Al-Shifa après un siège de 2 semaines par l'armée israélienne, des témoignages recueillis sur le terrain ainsi que des vidéos et des reportages. Une enquête internationale est une nécessité urgente, a-t-il dit. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a demandé si les assemblées et institutions internationales rempliraient leurs devoirs. Les célèbres défenseurs autoproclamés des droits de l'homme soutiendront-ils une enquête internationale sur les aspects de ce crime de guerre flagrant où le comportement sélectif et discriminatoire à l'égard des droits de l'homme continuera-t-il, a demandé Nasser Kanani. Dans un communiqué publié lundi 1er avril, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les forces israéliennes avaient retiré leurs chars et leurs véhicules de l'hôpital Al-Shifa après un siège de 2 semaines du complexe médical. Il a indiqué que des dizaines de corps, dont certains décomposés, avaient été retrouvés dans le complexe après le retrait israélien, qui a également laissé derrière lui une vaste zone de destruction. Il a aussi souligné qu'Israël s'est retiré de l'hôpital après avoir incendié les bâtiments du complexe et l'avoir complètement mis hors service. Au moins 4 travailleurs humanitaires étrangers, leurs traducteurs palestiniens, ont été tués dans un raid aérien israélien visant la ville de Deir al-Balah dans la partie centrale de la bande de Gaza, où se déroule une guerre génocidaire israélienne. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a annoncé le lundi 1er avril que les victimes étaient toutes des employées de WCK, une organisation caritative d'aide alimentaire. Parmi les étrangers figurent des citoyens australiens, britanniques et polonais. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré que l'attaque visait à terroriser les travailleurs des agences humanitaires internationales et à les dissuader de poursuivre leur mission. Depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza, le 7 octobre dernier, le régime de Tel Aviv a tué environ 32 800 Palestiniens et en a blessé près de 75 300 autres. Le mois dernier, les Nations Unies ont averti qu'aucun changement n'était survenu dans la guerre de Gaza et que celui-ci était en passe de connaître une famine totale. La commission d'enquête russe a ouvert une enquête sur l'implication de l'Ukraine et de ses soutiens occidentaux dans des activités terroristes sur le territoire russe. Les forces de l'ordre ont annoncé le lundi 1er avril qu'elles allaient de l'avant avec l'enquête procédurale. Une plainte déposée par les législateurs la semaine dernière a été jugée suffisamment crédible pour justifier une enquête formelle. La plainte initiale identifiait les États-Unis et leurs alliés comme la force motrice d'une série d'attaques sur le sol russe. L'agence enquête sur l'organisation, le financement et la conduite d'actes terroristes par ces États. Nikolai Karitonov, du Parti communiste, l'un des députés qui ont déposé la plainte, a insisté sur le fait que les pays occidentaux ont bénéficié de la récente attaque terroriste contre l'hôtel de ville de Krokus près de Moscou. Lors de la dernière attaque terroriste, 4 hommes armés ont fait irruption dans l'hôtel de ville de Krokus à Moscou le 22 mars et ont commencé à tirer sur les personnes qui assistaient à un événement. Au moins 140 personnes ont été tuées dans cette attaque terroriste, la pire de l'histoire de la Russie depuis le début des années 2000. Quelques 200 personnes ont également été blessées. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les Palestiniens ont commémoré la journée de la terre. Les Palestiniens de toute la Cisjordanie, y compris Ramallah, ont organisé une marche massive à l'occasion du 48e anniversaire de la journée de la terre. Tout en condamnant les crimes commis par l'occupation israélienne contre Gaza, ils ont souligné leur soutien à la résistance et à la population de cette enclave assiégée. À Ramallah, les Palestiniens ont commémoré samedi 30 mars le 48e anniversaire de la Journée de la Terre, qui se déroule différemment cette année, sur fond de la guerre barbare des occupants israéliens contre Gaza. Lors de cette marche, les manifestants ont réitéré leur soutien à la bande de Gaza, à sa population et à sa résistance, et condamner les crimes de l'ennemi sioniste contre la nation palestinienne. En brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont dénoncé les crimes des occupants et souligné leur solidarité avec la résistance et le peuple sans défense de Gaza. Les participants aux manifestations de la Journée de la Terre palestinienne ont déclaré leur attachement à leur terre et réaffirmé que les crimes barbares des occupants ne dissuaderont jamais le peuple palestinien de soutenir la résistance comme l'unique option pour éradiquer l'occupation israélienne. Le mouvement de la jeunesse palestinienne de Ramallah et de la province d'Albira, située en Cisjordanie, a appelé à la participation la plus large possible du peuple palestinien aux activités liées au soutien à Gaza. À Naplouse et Bethléem, des militants et des mouvements de jeunesse ont organisé des rassemblements et des marches à l'occasion de l'anniversaire de la Journée de la Terre, en affichant leur plein soutien à la bande au Gaza et à la lutte contre les occupants. Les participants à ces marches à Naplouse ont souligné l'importance de l'unité et de l'intensification des efforts pour contrer les agressions barbares du régime occupant contre le peuple et la terre palestinienne. Ils ont appelé à des mesures sérieuses visant à mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Les Palestiniens ont réitéré une fois de plus qu'ils se tenaient aux côtés du peuple et de la résistance de Gaza et qu'ils affronteraient les crimes génocidaires commis par les occupants contre la nation palestinienne. Depuis le samedi 30 mars, de nombreux appels ont été lancés pour une large participation des Palestiniens à la marche de la Journée de la Terre et pour un soutien à Gaza, dans toutes les villes palestiniennes, de la Cisjordanie à Rots occupée et aux territoires occupés de 1948. Ces marches ont eu lieu dans toutes les régions palestiniennes samedi soir à partir de 20h30 et les Palestiniens, exprimant leur colère face aux crimes brutaux des sionistes contre la population de Gaza, ont brandi les drapeaux palestiniens et commémoré le 48e anniversaire de la Journée de la Terre. Le 30 mars 1976, les occupants sionistes ont confisqué des milliers d'hectares de terres palestiniennes dans la région d'Al-Jalil, située au nord de la Palestine occupée. Suite à cet acte criminel, le peuple palestinien avait entamé une grève de la faim et organisé des manifestations de protestation. Depuis 48 ans, le 30 mars est pour tous les Palestiniens et Palestiniennes dans le monde la journée de la terre. Une journée de lutte et de résistance contre la dépossession de leurs biens et de leurs terres, contre la colonisation israélienne. Une journée de commémoration de la Nakba. Dans le contexte du génocide en cours à Gaza, depuis près de 6 mois, cette journée du 30 mars 2024 a pris une importance particulière.
Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Alors, on va s'intéresser tout de suite aux manifestations mondiales, dont notamment en Europe, en solidarité avec les Palestiniens, de plus en plus fortes, avec nos deux experts. Avant de les saluer, je vous propose un reportage sur ce sujet, ces manifestations en solidarité avec la Palestine. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous.
Comme à l'accoutumée, depuis le début de la guerre israélienne, contre la population civile dans la bande de Gaza, des manifestations de masse se sont déroulées ce samedi 30 mars dans plusieurs pays européens, coïncidant cette semaine avec la Journée de la Terre. Les manifestations connues un élan sans précédent et une vaste portée à travers l'Europe, s'étendant à de nombreuses villes dont Londres, Paris, Amsterdam, Copenhague, Aarhus, Oslo. Dans le contexte du génocide en cours à Gaza, depuis près de 6 mois, cette journée du 30 mars 2024 prend une importance particulière. Le 30 mars est chaque année une journée particulière en Palestine. Et pour tous les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés de la Palestine, dans les camps de réfugiés des pays arabes ou dans la diaspora dans le monde entier. C'est la journée de la terre commémorée depuis 1976. Le début des événements remonte à l'annonce par le cabinet d'occupation israélien dirigé par Yitzhak Rabin en 1975 d'un plan de judaïsation de la région d'Al-Jalil. L'objectif était de construire des colonies de peuplement sur des terres appartenant aux Palestiniens qui représentent la majorité dans cette région. Le 30 mars 1976, la police israélienne tire sur des Palestiniens qui manifestaient contre la confiscation de leurs terres. Bilan 6 morts, des dizaines de blessés et des centaines de détenus. Le 30 mars est donc devenu pour tous les Palestiniens dans le monde la journée de la terre qui est le symbole de leur attachement à leur terre, de leur résistance et de leur lutte contre l'occupation et la colonisation. Cette année, la journée de la terre prend un caractère particulier avec le génocide en cours dans la bande de Gaza qui dure depuis 6 mois. En toute impunité, le régime israélien s'affranchit du respect du droit international. Il refuse d'appliquer l'ordonnance de la Cour internationale de justice CIJ appelant à l'arrêt des actes génocidaires. Au contraire, il intensifie sa guerre atroce contre la population de Gaza. Il tue ou mutile des milliers d'hommes, des femmes, d'enfants et de bébés. Il détruit les habitations, hôpitaux, écoles, universités, biens culturels. Aux bombardements intensifs et déplacements forcés, le régime de Tel Aviv a ajouté l'utilisation délibérée de la famine. Gaza est sous blocus, c'était déjà une prison à ciel ouvert. C'est maintenant devenu un cimetière à ciel ouvert. Régissant massacre continu, le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné par la voix de son porte-parole dans un message qu'il relevait de la responsabilité des institutions internationales de mettre une fin immédiate à la poursuite des crimes du régime sioniste et la poursuite légale et judiciaire des criminels sionistes comme le demande l'opinion publique mondiale. L'opinion publique mondiale exige la fin immédiate des crimes du régime sioniste, a insisté le diplomate iranien avant de souligner que les crimes barbares du régime sioniste contre les habitants de la bande de Gaza assiégée sont une tâche éternelle et indélébile sur le front de ses soutiens et alliés hypocrites.
Voilà pour le reportage. J'ai immense plaisir de recevoir deux chers invités pour ce débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Maître André Chami et Maître Elie Hatem qui nous rejoignent depuis Paris. Bonjour à vous deux, ravi de vous retrouver. Vous êtes juriste international, analyste politique. Alors, on commence... par vous, Maître André Chami. Comme à l'accoutumée, depuis le début de la guerre israélienne contre la population civile dans la bande de Gaza, des manifestations de masse se sont déroulées ce week-end dans plusieurs pays européens, coïncidant cette semaine avec la journée de la Terre, qui est très symbolique. Il paraît que les revendications sont devenues de plus en plus fortes et de plus en plus claires, Maître Chami.
Les revendications, évidemment, ne peuvent que augmenter, on va dire, en puissance et en tout cas en intensité, parce que c'est à la mesure de l'agression et de la violence pratiquée par l'antisioniste sur une population civile exsangue, puisque cette population est coincée dans une parcelle de terrain. Là, on est réduit à la portion symbolique et puis bombarde au quotidien. Il n'y a rien qui est épargné, les hôpitaux, les camps des réfugiés. Hier, c'était les journalistes à nouveau qui ont été bombardés. Rien n'est épargné, c'est-à-dire il n'y a plus d'humanité. On a fait une parenthèse de l'humanité et cette parenthèse dure depuis 6 mois. Et pendant 6 mois, les bombardements ne laissent rien passer, pas un enfant, pas une femme, pas un vieillard, pas un malade à l'hôpital. Tout le monde y passe. Et évidemment, l'information passe et l'opinion publique à travers le monde voit ce qui se passe en territoire de Gaza. Voit ce qui se passe même en territoire occupé, c'est-à-dire quand on regarde, y compris ce qui se passe à Jenin et dans les autres, en Cisjordanie, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons la reprise des opérations individuelles de la part des résistants palestiniens en attaquant des soldats israéliens sur des barrages. Hier, c'était un officier qui a été poignardé parce que ces gens et ces jeunes n'en peuvent plus. Ils veulent leur liberté, ils veulent retrouver leur dignité, ils veulent tout simplement retrouver leur humanité qui se trouve foulée du pied. Et bien entendu, personne ne se réveille. Le monde occidental, sur le plan politique, j'ai eu l'occasion de le dire, la population est, je dirais, sensibilisée par rapport à cette question-là, mais les politiques en Europe, en Occident, se comportent de manière abjecte. Leurs déclarations sont en dessous de tout, leurs actions sont ridicules parce qu'aucune décision radicale qui permet de faire comprendre à l'antisioniste que maintenant ça commence à bien faire, il faut que ce massacre s'arrête, il faut que ces destructions s'arrêtent, il faut que ces exactions sur des personnes dans les hôpitaux, des lieux préservés par le droit international, il faut que tout cela cesse. Mais personne n'est à la hauteur de l'événement, personne n'est à la hauteur de ce qui se produit, de cette, je dirais, de cette ignominie commise par les Israéliens à l'encontre de la population palestinienne. Aujourd'hui, la population civile finira ici en Occident par l'emporter, mais entre-temps, malheureusement, le temps passe pour les Palestiniens. Il faut à un moment donné que il y ait une vague beaucoup plus forte pour inciter les Européens à bloquer tout, bloquer les aides, bloquer l'armement, bloquer le commerce, bloquer toute coopération de quelque nature que ce soit, à quelque niveau que ce soit, avec cette entité d'assassins. Et à un moment donné, peut-être que ça réveillerait les consciences et peut-être que ça ferait plier ces personnages qui règnent actuellement sur l'antisionisme. Moi, contrairement à d'autres, je ne fais pas la distinction entre la gauche, la droite, l'extrême droite, etc. Pour moi, je mets tout le monde dans le même sac parce que c'est une politique qui est mise en place depuis des décennies. Quand on parle de la journée de la terre palestinienne qui remonte à 76, je précise au passage que depuis 76, mais depuis 48, il y a eu des gouvernements et des personnalités de gauche comme de droite qui se sont succédés. Il y a eu le parti des travaillistes, il y a eu tous les partis politiques qui se sont succédés. Je n'ai pas vu le moindre changement dans la politique. Ça a toujours été la politique des massacres, la politique de l'exécution, la politique des sanctions collectives. Et évidemment, maintenant, il faut qu'à un moment donné, que le monde se réveille, que l'opinion publique internationale se réveille. Et malheureusement, ça ne vient pas du Moyen-Orient, ça vient de l'Afrique, qui est devenu le cœur du monde, qui est devenu le cœur qui bat dans le sens cœur-organe, parce que c'est ce cœur-là aujourd'hui qui fait battre l'idée de la liberté et qui fait battre l'idée qu'il est temps que cette libération soit assurée pour la population palestinienne et que ces massacres cessent. Et nous verrons, à travers les actions menées par les Africains, mais par d'autres pays, comment ça va se terminer. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui d'abord nous regarder en face et en même temps regarder cette population en face pour voir à quel point elle souffre, à quel point elle est dans une situation désastreuse et insupportable.
Merci beaucoup, André Chamy, pour cette ouverture. Cher Elia Atem, heureuse de vous avoir une fois de plus parmi nous. Alors, manifestations pro-palestiniennes, je disais, sont de plus en plus fortes et exigeantes, qui dérangent des gouvernements alliés d'Israël et qui préoccupent les autorités, leurs autorités respectives, les capitales européennes, Paris et Londres notamment, sont confrontées à une vague de manifestations pro-Palestine. Est-ce qu'il y a une évolution, d'après vous, au sein de ces manifestations, revendications des manifestants, au rythme des évolutions dans la bande de Gaza?
Écoutez, votre question est très intéressante parce que vous dites qu'il y a des manifestations populaires qui sont contradictoires en quelque sorte et qui ne reflètent pas la position de ces gouvernements occidentaux. Alors, il faut commencer par l'attitude et expliquer l'attitude de ces gouvernements occidentaux pour expliquer ce fossé et le pourquoi de ce fossé qui existe entre ce qu'on appelle les pays légaux et le pays réel dans ces pays occidentaux. Il faut savoir que pour accéder au pouvoir dans ces démocraties occidentales, ils ont besoin de l'appui, on appelle en anglais mainstream, de lobbies importants qui sont derrière ces médias et puis ces moyens de ce que j'appelle des moyens de pression, ces groupes de pression qui permettent aux dirigeants de l'exécutif d'arriver au pouvoir. Et tout cela est tenu malheureusement par des lobbies pro-israéliens et des lobbies sionistes qui entretiennent une certaine mainmise sur ces moyens et auxquels en fait sont subjugués toutes les personnalités politiques pour arriver au pouvoir et pour rester au pouvoir. C'est ce qui explique cette attitude, je dirais, officielle de ces gouvernements occidentaux et qui ne font que subir ce terrorisme intellectuel exercé par les lobbies sionistes et les lobbies pro-israéliens en Occident. Cela pouvait se passer de cette manière pendant plusieurs années, mais nous assistons aujourd'hui à une révolution technologique et l'émergence de médias parallèles qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont par Internet et sur la toile, et qui permettent en fait à la masse de comprendre une certaine réalité qui n'est pas dévoilée par les médias traditionnels. C'est ce qui explique ce réveil populaire en assistant, en voyant, en examinant de près la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont les images qui démontrent qu'il y a un génocide, qu'il y a de véritables massacres, comme mon confrère André Chami l'a expliqué, qui se passe en Palestine, qui est une terre occupée par des Israéliens. Et là, je ne suis pas le seul à le dire, ou mon confrère André Chami à le dire, mais il y a quand même des décisions internationales de l'organe qui est censé protéger le droit international public et qui est en fait les Nations Unies. Il y a plus de 65 résolutions de Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamnent le comportement de l'entité sioniste. Il y a 1142 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont l'une du 30 décembre 2022, qui explique et qui condamne la façon dont cette entité se comporte avec les autochtones palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, mais aussi dans les autres territoires, à savoir en Cisjordanie. Et cela est reflété dans cette résolution 472 du 30 décembre 2022, qui n'a jamais été relaté par les médias traditionnels en Occident. Puis est arrivée toute cette opération qui a débuté le 8 octobre, à l'issue d'une opération dont les conditions ne sont pas encore très claires et qui a permis d'avoir un casus belli aux forces militaires israéliennes qui ne sont que la continuité des groupes terroristes sionistes, la Haganah, le Léry, et puis les autres groupes tels que le groupe Stern, qui ont exercé des méthodes terroristes à l'encontre de tout d'abord des Britanniques, mais ensuite contre la population palestinienne. Et je passe toutes ces exactions et puis cette façon de se comporter, les massacres progressifs, etc. Toutes ces informations qui ont été cachées à l'opinion publique occidentale et qui le sont toujours par les médias traditionnels ne peuvent plus l'être grâce à ces réseaux sociaux qui démontrent la réalité, qui montrent la façon dont les Palestiniens sont exécutés de sang-froid. Je parle en particulier non pas des résistants, c'est-à-dire des forces de résistance armées palestiniennes qui sont totalement légitimes conformément au droit international public, mais je parle des civils qui ne font pas partie des réseaux et des groupes de résistance palestinienne, mais qui subissent une véritable extermination de la part des forces militaires israéliennes. Et il faut rappeler que quand même que la Cour internationale de justice s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 du traité de prévention et de sanction du génocide pour se poser des questions et avoir suffisamment d'éléments pour avoir une suspicion sur le génocide de la population palestinienne. Et nous le voyons, il y a une déportation qui se fait et qui continue à se faire, parce que cette déportation a commencé bien avant 1948, la déclaration du pseudo-État israélien qui a été reconnu sous la menace et la pression psychologique sur les pays occidentaux. Et puis après 1948, à plusieurs reprises, il y a eu des déportations de populations palestiniennes. Le projet sioniste, comme l'a très bien démontré mon confrère André Chami, ne s'agit pas d'une droite ou d'une gauche, parce que c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. C'est que cette entité même est fondée sur une notion racialiste, parce qu'il faut rappeler que le sionisme est considéré comme une forme de racisme. Il l'a été officiellement par l'Assemblée générale des Nations Unies, et quelque temps avant l'arrivée de Boutros-Boutros-Ghali comme secrétaire général des Nations Unies, et sous la pression des lobbies pro-sionistes, cette résolution a été annulée par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Merci.
Cette entité, cette idéologie racialiste et sioniste est de nature à créer une haine de la part des non-juifs de plus en plus. Nous voyons ces déclarations de Ben-Gvir, de Smotrich et des autres dirigeants actuels, mais des autres dirigeants que ce soit de droite comme de gauche, et qui sont fondés sur cette notion d'une entité, d'une ethnocratie israélienne versus un État palestinien multiconfessionnel. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il y avait des Juifs avant le 19e siècle, avant l'arrivée des premiers Biloïm et leur installation en Israël, et qui faisaient partie d'un tissu social composé de chrétiens, de musulmans, de juifs et d'autres communautés telles que les Samaritains, qui coexistaient harmonieusement en Palestine. Et il a suffi d'attendre ce mouvement des Amants de Sion, puis qui s'est transformé et en devenu l'OS du sionisme mondial, qui a donné naissance à cette ethnocratie racialiste dont le caractère s'est amplifié depuis le changement de la Constitution et depuis l'adoption par la Cour suprême israélienne de principes génétiques qui permettent de prouver la judaïté des citoyens israéliens.
Merci Eliatem. Peut-être dernière question à vous, Maître André Chami. Dans le cortège et sous une marée de drapeaux palestiniens, certains ont chanté le slogan « Free, free Palestine », « Libérer la Palestine » et ont dénoncé les plus de 30 000 morts martyrs causés par les frappes israéliennes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et encore une fois, ici, les autorités occidentales ne mettent pas en avance la liberté d'expression, pour rappel.
Non, mais c'était le contraire, hein, parce qu'au départ, en France, je le précise au passage, que beaucoup de préfets ont refusé de donner des autorisations de manifester à beaucoup de manifestations. Ici, même en Alsace, j'ai dû intervenir auprès du tribunal administratif pour débloquer la situation, parce que le juge en France peut pour des raisons que l'on peut exposer, et notamment le droit d'expression, le droit de manifester, aussi bien en se fondant sur les textes de la Constitution que sur les textes de la Convention européenne des droits de l'homme, débloquer la situation et autoriser, malgré la décision du préfet, les manifestations dans l'urgence. Mais il s'agissait d'une décision politique. Le préfet n'agit pas de son propre chef. C'était le ministre de l'Intérieur, c'était les décideurs en haut lieu. Mais comme ils ont vu que toute l'Europe finalement manifestait, ils ont fini par baisser le ton et ils ont commencé à autoriser les manifestations. Mais à partir du moment où vous créez déjà le sentiment de peur au départ, ça pose des difficultés parce que les gens n'ont pas envie d'être confrontés aux forces de l'ordre quand ils descendent pour manifester et surtout pour exprimer une opinion qui paraissait particulièrement légitime, notamment au égard au massacre dont il est question dans le cadre de cette, dans le cadre de cette agression israélienne contre la population palestinienne. Ce qui démontre quand même qu'il y a une réticence du pouvoir politique. Mais derrière ça, vous avez également une population qui se mobilise, vous avez une société civile qui se mobilise. Et nous verrons la semaine prochaine, par exemple, pour la journée d'Al-Quds, comment les mobilisations vont avoir lieu, parce que c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, si mémoire est bonne. En tout cas, nous sommes ici prêts pour y aller. Et évidemment, ces mobilisations-là viendront se rajouter aux manifestations que l'on fait de manière périodique depuis le début de cette agression, mais en plus de la manifestation concernant la Journée de la Terre, c'est-à-dire il y a une véritable mobilisation et que l'on voudrait intensifier afin que le pouvoir politique se réveille, parce que ce pouvoir politique est endormi entre les déclarations tonitruantes d'un côté, mais les actes qui sont en totale opposition avec les déclarations. Nous sommes face à un pouvoir politique qui est totalement démissionnaire par rapport à une solution, mais en même temps une réponse à cette agression, parce que vous ne pouvez pas continuer de dire qu'il faut arrêter l'agression, alors que vous continuez de l'alimenter et de les financer. Les Américains viennent de le prouver en accordant une aide militaire de 3 milliards supplémentaires en avions et en munitions. Et alors, pendant cela, ils disent non, il faut que cette guerre s'arrête. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et c'est ça que paye la population civile palestinienne actuellement.
Merci beaucoup André Chami et Elia Thiem, à vous deux pour avoir apporté ces informations et ces analyses à notre émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, auditeurs. Ravi de vous retrouver à la prochaine pour un nouveau débat. Au revoir.
Tourisme gastronomique. Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tentent de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. Bonjour chers auditeurs. Comme la semaine dernière, nous voulons découvrir ensemble une autre province iranienne et ses spécialités culinaires. Dans le programme d'aujourd'hui, nous vous parlerons de province au nord-ouest de l'Iran. Nous vous invitons à nous suivre jusqu'à la fin du programme. L'Azerbaïdjan est une terre historique où les hauts et les bas de l'histoire de cette terre ancienne sont pleins d'honneur pour ses habitants. Dans le passé, cette région faisait partie du royaume des Mèdes et de l'empire achéménite. En outre, dans la période post-islamique, l'Azerbaïdjan est devenu l'un des États les plus importants d'Iran et après la chute des Sassanides, il a toujours été le foyer d'événements et de merveilles historiques et a joué un rôle très important dans l'histoire contemporaine de l'Iran et de courageux commandants sont issus de cette région iranienne. Il est intéressant de savoir que selon une histoire datant de l'époque d'Alexandre le Grand, le gouverneur iranien Atorpat dirigeait cette région. Atorpat désigne celui qui est protégé par le feu. De cette façon, cette zone a d'abord été appelée Atorpatan, puis le même nom a été changé d'abord en Azerbaïdjan, puis en Azerbaïdjan en langue persane. L'Azerbaïdjan est situé dans le nord-ouest de l'Iran et est divisé en deux provinces, l'Azerbaïdjan oriental et l'Azerbaïdjan occidental. Dans le programme d'aujourd'hui, nous sommes venus dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, dont le chef-lieu est la ville de Tabriz. Tabriz est une ville ancienne. Les premiers écrits existants au sujet de la ville remontent à l'inscription du roi d'Assyrie, Sargon II. Il a régné au milieu de 705 et 722 avant Jésus-Christ. Dans cette inscription, Sargon décrit Tabriz comme une grande ville prospère, dotée de nombreux remparts. Cette ville a été choisie à plusieurs reprises comme capitale de différentes dynasties au cours de l'histoire iranienne. La ville actuelle de Tabriz est construite sur les ruines de Tavrech. Tavrech était l'un des centres commerciaux les plus importants de la région et a joué un rôle très important en tant que pont entre l'Est et l'Ouest. La ville était la capitale de cette région sous la domination parthe de l'Arménie. Tabriz est une belle ville avec des étés chauds et secs et des hivers très froids. Les habitants de cette province parlent l'azéri. L'azéri est la langue des Turcs qui vivent dans les deux provinces iraniennes en Azerbaïdjan, l'une des anciennes républiques de l'Union soviétique. Bien entendu, il faut dire que la langue tati est également parlée dans certains villages de cette province, comme Karagan. Et les Kurdes vivent dans la région d'Arasparan. La majorité des habitants de cette province est musulmane, et une minorité de chrétiens appartenant pour la plupart aux religions arméniennes et grégoriennes vivent également dans la ville de Tabriz. Parmi les attractions touristiques et naturelles de la ville de Tabriz et de la province de l'Azerbaïdjan oriental, on peut citer le parc El Goli à Tabriz, les forêts d'Arasparan, le village de Kandovan dans la ville de Sku, la forteresse Babak à Kaleybar, la mosquée bleue à Tabriz. Le bazar de Tabriz est également l'une des attractions les plus importantes du chef-lieu de l'Azerbaïdjan oriental. Le bazar de Tabriz est le plus grand marché couvert de briques au monde avec une superficie de plus d'un kilomètre carré. Enregistré sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le bazar de Tabriz est l'un des monuments les plus spectaculaires de la ville. Dans le passé, Tabriz était situé sur la route de la soie, ce qui a rendu ce marché très prospère depuis l'Antiquité. Même aujourd'hui, malgré la création de nombreux centres commerciaux mondiaux, le bazar de Tabriz est toujours l'un des centres commerciaux les plus importants pour les habitants de Tabriz et les touristes. Les attractions touristiques de Tabriz nous montrent bien l'histoire de cette ville, mais ce ne sont pas seulement les attractions qui racontent la civilisation de cette ville. Les aliments traditionnels jouent également un rôle important dans la présentation de la culture de cette ville. Tabriz est la ville des plats délicieux, des aliments si divers qu'ils satisfont tous les goûts alimentaires. En outre, il faut dire que les Turcs azerbaïdjanais ont l'une des meilleures cuissons et sont très compétents et de bon goût dans la préparation de toutes sortes de plats. La province de l'Azerbaïdjan oriental propose une variété d'aliments, des potages aux boulettes de viande, en passant par les friandises et la délicieuse halva. Parmi les friandises, le corabier de Tarbiz, le nougat, le choroutmé, le sojouk maroré sont très appréciés des touristes. Mais quand il s'agit de plats populaires de cette ville historique chez les Iraniens, l'un des aliments les plus délicieux de Tabriz, dont le nom leur vient à l'esprit, est le koufte tabrizi, une sorte de boulette de viande. Il s'agit d'un plat très savoureux et délicieux qui comprend divers ingrédients. Koufte en persan signifie piler et écraser. Les boulettes de viande sont préparées dans différentes régions du Moyen-Orient, mais à Tabriz, la méthode de préparation de la boulette de viande et ses ingrédients utilisés sont différentes des autres endroits. Et ce plat est également préparé avec de la viande hachée, des légumes secs et des légumes frais. Pour préparer ce plat à la maison, nous vous proposons de noter les ingrédients nécessaires et la méthode de la cuisson. Viande hachée 500 g, une combinaison de la viande du veau et de mouton, poireaux iraniens 100 g, sarriette 100 g, thym séché, une cuillère à soupe, riz, une demi-tasse, épis, une demi-tasse, 3 oignons, un œuf, une pomme de terre, 2 cuillères à soupe de la tomate concentrée, beurre 50 g, 15 abricots secs, 3 cuillères à soupe d'épines vinettes, épices à viande comprenant le curcuma, la poivre noire et le sel au besoin. Maintenant, passons à la préparation de koufte de Tabriz ou la boulette de viande de Tabriz. Tout d'abord, mélangez la viande hachée dans un robot culinaire pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit complètement écrasée. Mettez ensuite la viande au frigo pour qu'elle repose. Mettez les pieds que vous avez trempés 2 heures auparavant, ainsi que la pomme de terre épluchée et 2 tasses d'œufs sous le feu jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Le riz, comme les épis, doit être trempé 2 heures avant, puis mis sur le feu avec 2 tasses d'œufs, un pot de curcuma, jusqu'à ce qu'il soit à moitié cuit et dont l'eau soit égouttée. Pour préparer l'oignon frit, coupez 2 oignons en petits morceaux et faites-les frire dans une grande casserole. Une fois qu'ils sont dorés, retirez les oignons de la marmite. Dans la même casserole, faites revenir la tomate concentrée avec le beurre et les épices jusqu'à ce que sa couleur s'éclaircisse. Râpez grossièrement l'un des oignons, retirez complètement son jus et ajoutez ce dernier ainsi que 1,5 litre d'eau bouillante à la tomate concentrée dans la casserole. Lorsque les pies et le riz sont complètement égouttés, ils sont prêts. Maintenant, écrasez bien les épis et les pommes de terre cuites. Séparez 2 cuillères d'oignons frits pour les ingrédients des boulettes de viande et mélangez avec les abricots secs hachés et les pins vinettes. À ce stade, mélangez la viande avec les épis et les pommes de terre écrasées, le riz mi-cuit, les légumes, les oignons râpés et égouttés, les œufs, le reste d'oignons frits, le sel, le curcuma et les épices pour viande et pétrissez jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes. Façonnez les ingrédients préparés en petites boulettes. Étalez ensuite ces ingrédients avec un rouleau à pâtisserie et mettez les ingrédients comprenant les oignons frits, les abricots hachés et l'épine vinette dans les boulettes étalées et roulez-les encore une fois. Placez les boulettes de viande dans la casserole et versez la sauce sur les boulettes de viande. Faites bouillir les boulettes de viande dans la sauce avec la couvercle de la marmite ouvert pendant 10 minutes, puis laisser cuire les boulettes de viande dans la marmite fermée pendant 45 minutes. Ainsi, votre repas est préparé. Un plat délicieux qui est devenu populaire à travers l'Iran.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.